pense qu'on a pas mal une bonne partie de notre équipage, là. On a 20 connexions, ça fait que on va commencer bientôt. Fait que c'est le fun de se retrouver après 2 semaines. Ça semble longtemps, mais on veut vous souhaiter à tous une bonne année. Puis j'espère que vous avez eu des bonnes fêtes, et du temps en famille, puis aussi de se souvenir que le Seigneur Jésus est venu sur la terre nous visiter. C'est une grande chose. Hein? Fait que, je vais tout vous muter, puis on va mettre en sourdine. Puis après ça, on va commencer avec un mot de prière, puis ensuite, on va commencer notre étude. OK. Bonsoir. Seigneur notre Dieu, on se tourne vers toi ce soir encore une fois parce qu'on veut se tourner dans ta parole. Puis on sait, Seigneur, qu'avec ta parole qui nous est précieuse, tu nous as donné ton esprit pour qu'on puisse la comprendre. Puis on te remercie pour cela, Seigneur. On te demande qu'en passant ce temps ce soir dans ta parole, ça puisse nous encourager. D'autant plus qu'on voit s'approcher le jour, Seigneur, puis le jour de ton retour, parce que tu nous as fait une grande promesse, puis on attend cette promesse-là, Seigneur. Comme ton épouse, on attend notre époux céleste. Puis on te remercie, Seigneur, pour être avec nous ce soir. On te remercie de ta parole. On te demande de nous diriger, de nous encourager, de nous fortifier, de nous édifier. Puis aussi, Seigneur, en apprenant ta parole, on apprend à te connaître. Puis plus on te connaît, plus on t'aime, Seigneur, notre Dieu, à cause des grandes choses que tu as faites pour nous. Comme ta parole nous dit, nous nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés le premier. On te remercie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on est dans la fête des trompettes. On avait commencé le 18 décembre, le soir du 18 décembre, on avait commencé à regarder la fête des trompettes qui est la restauration d'Israël. Ça arrive au 7e mois. On sait qu'à ce moment-ci, le 7e mois est compté par rapport à la Pâque, qui était devenue le premier mois de l'année, parce qu'avant ça, le 7e mois était le premier mois. On peut dire que c'est le premier mois de l'année civile, mais en tant que de leur nouvelle vie par rapport à la Pâque, qui était devenue le premier mois de l'année. Maintenant, c'est le 7e mois qu'on appelle la fête des trompettes. Après qu'on est au moment maintenant où l'Église a été enlevée et pendant qu'il y a eu l'aveuglement d'Israël pendant 20 siècles jusqu'à présent, eh bien maintenant, quand l'Église va être enlevée, le Seigneur va recommencer avec son peuple d'Israël. Donc, c'est ça qu'on va voir. On avait vu aussi que les trompettes, la trompette dans la parole de Dieu est toujours en rapport avec le rassemblement. Pardon? Excusez-moi. C'est en rapport avec le rassemblement. On avait vu que les trompettes étaient sonnées pour le rassemblement du peuple, donc le peuple qui avait été racheté hors d'Égypte, et les trompettes étaient sonnées pour les rassembler afin d'adorer, les rassembler aussi afin de marcher dans leur pèlerinage jusqu'au pays de la promesse, puis aussi au-delà. Et aussi pour aller au combat, parce que dans leur nouvelle vie aussi, il y a des combats, il y a des ennemis. Puis, c'est tout ça. On peut en faire une application spirituelle pour nous, mais on sait que la fête des trompettes concerne Israël. Et puis, on avait vu que aussi par rapport à l'Église, elle nous parle à la dernière trompette. Le Seigneur va nous rassembler après nous avoir transformés en un instant d'un clin d'œil pour nous emmener à sa rencontre sur la nuée dans les airs. Donc, la trompette, on avait dit que ce n'est pas la dernière trompette de l'Apocalypse, mais c'est comme la dernière trompette quand le peuple était rassemblé. C'est que la dernière trompette faisait en sorte que tout le peuple était rassemblé. Puis aussi dans l'Église, tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur les connaît par leur nom, puis il va les rassembler tous, il n'en manquera pas un, pour aller à sa rencontre sur la nuée dans les airs. Mais on avait commencé à regarder un peu aussi la dernière fois par rapport à la trompette qui est une application qui est faite à la parole dans l'assemblée. La parole qu'on n'utilise pas n'importe comment, mais qu'on utilise pour l'édification du peuple de Dieu, pour le rassemblement autour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que quand on est réunis en assemblée, c'est important de bien utiliser la langue comme un moyen de communication pour l'édification de l'Église. Puis, enfin, comme on avait vu que dans 1 Corinthiens 14, qu'il y a un message distinct, une communication pour l'édification de l'Église. C'est ça qui est important. Donc, on va lire encore une fois pour la fête des trompettes dans Lévitique au chapitre 23. Lévitique au chapitre 23, au verset 23. C'est là dans le chapitre 23 des Lévitiques, on voit qu'il y a toutes les fêtes de l'Éternel sont là. Puis la fête des trompettes, eh bien, on a seulement trois versets ici dans le chapitre 23, à partir du verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, puis on avait dit que quand on voit ça, ça nous introduit dans les fêtes, à chaque fête, parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Puis ensuite, on va aller dans le livre d'Ézéchiel. On va aller dans le livre d'Ézéchiel, puis on va attendre un petit peu, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37. On va lire le chapitre ici par rapport quand on parle de la restauration d'Israël. C'est un grand miracle, la restauration d'Israël. C'est par la puissance de Dieu que ça peut se faire, puis pas autrement. Comme on avait dit la dernière fois, il y a des gens qui nient cette restauration-là d'Israël. Puis, quoique invraisemblable, c'est vrai, c'est ce que Dieu a promis. Puis, on lit ici dans le chapitre 37 d'Ézéchiel une prophétie qui a été donnée à Ézéchiel concernant le peuple d'Israël. Puis il nous dit au verset 1, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm. Et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par leurs transgressions. Je les ramènerai de tous les lieux qu'ils ont habités où ils ont péché et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble ce soir. On voit qu'au début, quand Ézéchiel voit les eaux dans la vallée des ossements qui sont secs, le Seigneur lui demande, est-ce que ces eaux revivront? Puis Ézéchiel dit, mais toi, tu le sais, Seigneur, parce qu'avec le Seigneur, rien n'est possible. Et même, on a lu qu'eux, ils disent, ben, notre espérance est finie, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espérance pour nous. Mais le Seigneur leur promet qu'il va les faire revivre, puis même qu'il va rassembler toute la nation d'Israël, parce qu'il était divisé depuis Roboam. Sous le règne de Roboam, il y a 10 tribus qui se sont détachées du royaume de David pour former le royaume du Nord, qui est le royaume d'Israël. Mais là, Ézéchiel voit qu'il prend deux pièces de bois avec les deux Judas et les deux tribus qui sont associées, et aussi Israël ou Éphraïm avec les tribus qui lui sont associées, puis il les forme ensemble pour former un seul peuple. Puis là, puis il va leur donner le royaume. C'est ça qu'on voit dans les trois fêtes qu'on voit ici à la fin, qui sont dans le même groupe, les trois fêtes, les trompettes d'expiation et la fête des tabernacles. Puis là, il va leur donner le royaume avec leur roi David, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le plus grand fils de David. Donc c'est ça qu'on voit ici dans la fête des trompettes. Ça semble impossible, comme on avait dit la dernière fois, il y a des gens qui nient la restauration d'Israël, puis s'approprient les bénédictions qui sont à Israël. Et comme le Seigneur leur a promis, il va les restaurer, il va leur donner le pays qu'il avait donné à Abraham et à Jacob, et ils vont le posséder, eux, leurs enfants et leurs petits-enfants éternellement. Donc, c'est un royaume éternel. Mais si on vient, la dernière fois, on avait arrêté en parlant de, quand dans 1 Corinthiens 14, Paul utilise la trompette comme, pour parler, il en parle comme une illustration du langage dans l'Assemblée, la communication par la langue dans l'Assemblée. Puis, il nous disait que il fallait pas dire des choses futiles, il fallait pas gaspiller le temps avec des fois on peut dire des choses qui ne sont pas importantes. Donc même si c'est les hommes qui doivent parler dans l'assemblée, il faut pas dire n'importe quoi non plus. C'est important que qu'est-ce qu'on dit, ça doit, comme il dit dans 1 Corinthiens 14, 3, il y a un but dans le langage dans l'assemblée, c'est très important. Puis avec la présence du Seigneur, puis dans le chapitre 14 au verset 3, il avait dit: celui qui prophétise, au contraire, il a parlé de. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Donc, il montre que c'est futile dans un sens si personne dans l'assemblée ne le comprend. Mais il dit celui qui prophétise, au contraire, donc en comparaison avec l'inutilité de parler en langue dans l'assemblée, il montre que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Donc, il y a trois choses qui réussissent. Il les édifie, il les exhorte et les console. Donc, on sait que selon la parole de Dieu, ça doit être les hommes qui doivent parler dans l'assemblée selon leur rôle, comme il dit au verset 34 et 35 dans 1 Corinthiens 14. Il dit que les. On peut peut-être commencer au verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, ça doit être marqué dans l'assemblée, l'ordre qui doit être dans l'assemblée, parce qu'on représente le caractère de Dieu. Il dit, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Puis là, il leur dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Donc, ce n'est pas selon nous autres, c'est selon le Seigneur, l'instruction que le Seigneur a donnée. Puis on voit aussi dans 1 Timothée, au chapitre 2, et au verset 11 à 12, 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 et 12, il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc, on voit que le Seigneur a donné un ordre dans l'assemblée qui reflète son ordre à lui, parce que Dieu est un Dieu, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Puis le mot, quand il dit paix, c'est harmonie. Donc, ça veut dire qu'on reflète dans la présence de Dieu dans l'assemblée selon les rôles. Mais ici, c'est certain que même si l'homme peut parler dans l'assemblée, il faut faire attention à ce qu'on dit, pas dire des futilités, mais il faut dire des paroles qui vont exhorter, qui vont édifier, exhorter et consoler. Parce que c'est pas, on ne doit pas perdre le temps dans la réunion d'assemblée quand on est réunis ensemble. C'est important. Mais si on revient au sujet du rassemblement d'Israël, parce que vraiment cette fête-là, même si on peut en faire une application spirituelle pour nous autres dans l'assemblée, il reste que cette fête-là concerne, on sait qu'à ce moment-ci, l'Église est enlevée à la rencontre du Seigneur, puis Dieu reprend il reprend son œuvre avec le peuple d'Israël. Donc, dans leur rassemblement, Israël, le son des trompettes ne passait pas inaperçu puis inentendu. C'est vraiment, c'est un son strident, le son d'une trompette. Puis quand on sonne la trompette, ça attire l'attention. C'est pour ça que dans l'armée, on sonne la trompette, puis c'est un son de rassemblement, ça attire l'attention, parce qu'on voit même dans l'Apocalypse, au chapitre 1, au verset 10, Jean a dit, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Imaginez-vous, Jean est là devant cette vision-là, puis tout d'un coup, il entend derrière lui une voix forte. Et c'est une voix qui est comme si ça nous transperce, là. C'était comme le son d'une trompette. Il compare la voix qu'il entend au son d'une trompette et il dit, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. C'est le Seigneur qui parle à Jean. Donc, c'est un son vraiment qui nous laisse pas indifférents. C'est un son qui vient nous chercher, là. C'est un son qu'on ressent même. Même si on l'entend, on ressent aussi. Mais quand le Seigneur va appeler Israël de tous les coins de la terre, parce qu'Israël est dispersé, ça c'est connu, qu'Israël est dispersé sur la terre, là, partout depuis l'année 70, quand Jérusalem a été détruit, puis les Juifs ont été dispersés. On sait qu'il avait été dispersé auparavant en Assyrie, le royaume du Nord, puis ensuite de ça, de Juda en Babylone. Puis il y a eu un retour dans le pays sous Zorobabel, puis ils ont commencé à construire la ville et le temple, mais ce n'était pas le rassemblement complet qu'on voit ici. Là, ici, le Seigneur nous parle d'un rassemblement complet d'Israël, de partout, là, ici, sur tous les coins de la terre. Puis, il va avoir leur attention. C'est comme le son d'une trompette, là. Il va avoir leur attention. Ils vont entendre. Puis, il va les rassembler. La fête des trompettes garantit l'accomplissement des deux autres fêtes. Parce que c'est sûr que pour pouvoir célébrer les autres fêtes, l'expiation et la fête des tabernacles, il faut que le peuple d'Israël soit rassemblé. C'est la première des choses. Puis, le Seigneur utilise les trompettes pour les rassembler. De quelle façon? Comme on a parlé auparavant durant la Deuxième Guerre mondiale, avec comment les Juifs ont été persécutés, puis on a essayé de détruire la nation d'Israël, ben ça les a emmenés, c'est là qu'ils ont pu avoir une place dans leur pays. L'État d'Israël a été fondée en 1948, à la fin de la guerre. Après la guerre, les Nations unies ont donné la nation d'Israël, mais c'est ça qui a causé, la Deuxième Guerre mondiale a causé un rassemblement, mais ce n'était pas encore total. Il y en a des Juifs qui sont revenus dans leur pays, puis même qui apprennent la langue hébreu, parce qu'ils n'avaient pas pu parler. Puis quelqu'un disait ça, que c'est dans un sens, c'est les enfants qui apprennent la langue à leurs parents. Parce que là, les Juifs étaient dispersés dans tous les pays, dans toutes sortes de pays, mais ils ne parlaient plus l'hébreu. Maintenant, on parle l'hébreu en Israël. Les enfants apprennent l'hébreu à l'école, puis ils le montrent à leurs parents. Donc, il y a eu un rassemblement, mais ce n'est pas encore le rassemblement qu'on voit. Et si le Seigneur a pu les rassembler en 1948, puis on sait quand on écoute les chants d'Israël, surtout Hatikva, l'anthème, l'hymne national d'Israël, c'est rempli d'espérance. Ils tournent les yeux vers Zion, vers Jérusalem. Puis ils s'attendent à ce que le Seigneur les ramène dans leur pays pour qu'ils soient libres dans leur pays, parce qu'Israël, c'est un peuple persécuté, on le voit encore aujourd'hui, ils sont toujours en danger. Mais le Seigneur, il va les appeler, il va les ramener, il va causer quelque chose qui va les amener à revenir où ils ont été dispersés, pour revenir dans le pays d'Israël, parce qu'il y a beaucoup de Juifs qui ne sont pas encore revenus là. Mais qu'est-ce que ça va être? On ne sait pas. Ça va être une persécution. L'antisémitisme est à la hausse. Puis ils vont peut-être reconnaître que la seule place qui est sécuritaire pour eux, c'est de revenir dans leur pays. Donc, ces gens-là qui sont un peu partout, à un moment donné, le Seigneur va les rappeler. Comme le son de la trompette, quand ils étaient dans le désert, le son de la trompette les réunissait. Bien, le Seigneur va utiliser quelque chose pour les réunir. On lit un verset dans Romains 8, au verset 29 et 30, puis on peut l'appliquer dans ce sens-là. On sait que ces versets-là s'appliquent à nous aussi qui sommes sauvés par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais on va l'appliquer aussi à Israël, parce que c'est une rédemption aussi pour eux. On parle du jour des expiations, là, le jour où ils vont être réconciliés. Là, ce n'est pas encore ça, c'est les trompettes. Mais il dit, dans Romains 8, versets 29 et 30, il dit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ça, c'est la fête des trompettes. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ça, c'est la fête du jour des expiations. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est la fête des tabernacles qui va leur donner le royaume pour l'éternité avec leur roi qui va être le grand-fils de David, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce passage-là, on sait que ça s'applique à ceux qui ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ pour être un avec lui, pour être en lui. Mais dans un certain sens, on peut l'appliquer aussi à Israël, parce que eux aussi, ils vont passer par comme cette réconciliation-là avec le Seigneur Jésus-Christ. Puis le Seigneur a un but pour eux autres aussi. Mais c'est sûr que le Seigneur, ça fait longtemps qu'il a le désir de rassembler Israël. Le Seigneur Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il a dit dans Matthieu 23, au verset 37, il a dit: Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Et le Seigneur, quand il est venu sur la terre, puis qu'il est entré à Jérusalem sur un ânon, le petit d'une ânesse, comme le roi d'Israël, le fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, eh bien, il leur a offert le royaume, mais ils n'ont pas voulu. Parce qu'on sait qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils ont dit: on ne veut pas de cet homme pour régner sur nous. Ils l'ont fait condamner, puis ils l'ont fait exécuter. Mais c'était le désir du Seigneur. Mais le Seigneur, ils n'ont pas voulu. Mais parce qu'ils n'ont pas voulu, maintenant le Seigneur, il reporte à plus tard le rassemblement d'Israël. Puis cette fois, parce que ça n'a pas marché, parce qu'ils n'ont pas voulu, il leur a dit dans Matthieu 23, au verset 38 à 39, il dit: voici votre maison, parce que c'était supposé être la maison de l'Éternel, hein, c'est le temple de l'Éternel, mais eux, ils s'étaient appropriés ces choses-là par la religion. Ce sont, la religion vient à prendre la place de Dieu. Puis c'était le temple, puis c'était les fêtes des Juifs. Au début, c'était les fêtes de l'Éternel. Et maintenant, on parlait dans le Nouveau Testament des fêtes des Juifs. Puis cette maison-là, à Jérusalem, bien, les autres, ils disaient le temple de l'Éternel dans Malachie, hein, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, un peu comme si on a le temple. Le temple était devenu plus important que celui qui demeurait dans le temple. Puis le Seigneur, il s'est présenté dans le temple à Jérusalem. Puis ils ne l'ont pas reconnu. Mais il dit, voici votre maison. C'est comme si c'était leur maison. Votre maison vous sera laissée déserte. On sait que dans Ézéchiel, Ézéchiel avait vu la gloire de l'Éternel sortir du temple. Il avait vu aussi aller sur la montagne des Oliviers et partir. Donc le Seigneur, ce n'est pas la première fois qu'il leur laissait leur maison déserte, parce qu'à cause de toute l'idolâtrie, à cause de leur désobéissance, à cause du fait qu'ils voulaient imiter les nations, la gloire de l'Éternel était sortie du temple. Elle est revenue par le Seigneur Jésus qui est venu dans le temple. Puis là, maintenant encore, on sait que le Seigneur Jésus, quand il est parti de sur la montagne des Oliviers, comme la gloire de l'Éternel qui avait laissé le temple dans Ézéchiel. Il dit, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, on a parlé, comme la dernière fois, on avait parlé d'un intervalle, hein, depuis que le Messie soit retranché. Depuis la fête de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est venu former dans un corps l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur qui s'était tourné vers la nation pour se choisir un peuple, eh bien, il leur a laissé leur maison déserte. Puis là, il les a remis, il les a reportés à plus tard. Puis là, ils sont dans un aveuglement, comme un jugement, qu'on appelle le mystère de l'aveuglement d'Israël. Et maintenant, on sait qu'ils attendent. Ils attendent cette espérance-là, ils attendent que leur Messie vienne, mais ils sont aveugles au fait qu'il est déjà venu. Puis certains Juifs individuellement se convertissent au Seigneur, mais la nation sont encore dans l'aveuglement, puis ils ne réalisent pas, mais ils ont cette espérance-là en eux. On le voit très fortement dans leur anthème national, là, à Tikva. Ils attendent ce retour-là, ils attendent le retour du Messie, ils attendent qu'il les délivre. Mais le Seigneur, il leur a dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc ainsi, il reporte le rassemblement au temps de la tribulation, après l'enlèvement de l'Église, puis il va le faire en les faisant passer par une grande souffrance. Pour les réveiller, il va falloir qu'il les fasse passer par une grande souffrance. Puis on sait que Ésaïe, Jérémie, puis les autres prophètes aussi parlent beaucoup de la souffrance et du relèvement d'Israël. Ils parlent d'un jugement sur Israël, ils parlent d'un jugement aussi sur les nations, mais ils parlent d'un jugement sur Israël, mais ils parlent aussi d'une restauration d'Israël qui n'est pas encore arrivée dans sa plénitude comme elle va arriver à ce moment-là. Donc, le Seigneur, il va falloir qu'il les amène dans la souffrance, pour qu'il puisse se réveiller, qu'il puisse ouvrir les yeux puis reconnaître qui il est. On sait qu'il a dit, il dit, et ils me verront celui qu'ils ont percé. Faut qu'il en vienne un peu comme les frères de Joseph qui sont venus vers lui. Puis quand il était exalté, quand il était comme Pharaon en Égypte, eh bien, ils étaient dans la famine. Puis à cause de la famine, à cause de la difficulté dans laquelle ils étaient, bien, ils avaient besoin d'un sauveur, puis c'est Joseph qui a été leur sauveur, puis celui dont ils ne voulaient pas fléchir le genou devant lui, ne voulaient pas se prosterner devant Joseph, eh bien, éventuellement, ils se sont prosternés à cause de la famine, à cause de leur situation, et qu'ils avaient besoin de lui comme un sauveur, puis Joseph a été pour eux ce sauveur-là. Mais le Seigneur va les amener au désert, il va les amener dans des difficultés, des grandes difficultés, pour qu'ils puissent parler à leur cœur. Il va les emmener au désert. On sait qu'à ce moment-là, il va y avoir les deux tiers d'Israël qui vont périr. On va aller dans Zacharie au chapitre 13. Zacharie au chapitre 13 et à partir du verset 8. Dans Zacharie 13 au verset 8, dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Là, c'est à ce moment-là, dans leur détresse, et le Seigneur leur avait dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dans l'extrémité de leur détresse, ils vont crier à l'Éternel, à leur Messie pour venir. Il dit, ils invoqueront mon nom et il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Puis au verset 1, il dit, voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Donc, quand le Seigneur, il va les faire passer à travers des grandes difficultés, puis il va les rassembler, puis il va répondre à leurs prières. Dans l'extrémité, ils vont répondre à leurs prières. Puis là, c'est sûr que ça va être au jour des expiations, là, où le Seigneur va vraiment parler à leur cœur à ce moment-là. Mais le Seigneur, il va les rassembler à Jérusalem avant de les régénérer, avant de leur donner la vie, comme on a vu dans la vallée des ossements. Ils se rassemblent, premièrement, les os viennent ensemble, il y a de la chair, des nerfs, un esprit qui vient en eux, mais c'est juste après que Ézéchiel lui ait dit de prophétiser sur ces os, puis l'esprit, à ce moment-là, rentre en eux. Donc, il va arriver peut-être, le rassemblement d'Israël va se faire encore dans l'incrédulité. Si vous êtes encore dans Ézéchiel au chapitre 37, là, on va au verset 7 à 8. Donc, quand ils vont être rassemblés, premièrement, ils ne sont pas régénérés avant d'avoir été rassemblés. Ils sont rassemblés dans l'incrédulité. Puis même maintenant, les Juifs qui sont à Jérusalem sont dans l'incrédulité. Ils ne sont pas encore convertis en tant que nation. Ils ne sont pas convertis à leur Messie. Ils sont des individus, oui, qui sont sauvés. Mais en tant que nation, ils ne sont pas encore restaurés, ils n'ont pas encore passé le jour des expiations. Fait que dans le verset 7 et 8 d'Ézéchiel 37, il est dit ici, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. C'est juste au verset 9 qu'il leur dit, il prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Puis ainsi, il va prophétiser ainsi pour qu'ils puissent revivre. Donc, comme on a dit tantôt, il y a eu un rassemblement partiel depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais ce n'est pas encore complet, c'est partiel. Puis on sait que quand il y a des prophéties qui ont été faites, il y a un accomplissement partiel de ces prophéties-là qui vient, mais éventuellement, il y a un accomplissement total de la prophétie qui a été faite. Puis ça va se faire dans ce temps-là, quand il va y avoir la fête des trompettes. Ils ont fêté la fête des trompettes à toutes les années, ils fêtaient cette fête-là, mais c'était en prévision de celle qui va arriver quand ils vont être rassemblés, là, ici. Ils vont être rassemblés pour la fête, un plus grand rassemblement pour la fête des trompettes. Si vous voulez, on va aller dans Ésaïe au chapitre 60. Ésaïe au chapitre 60. Donc, les prophètes ont prophétisé ces choses-là. Puis, dans leur Ancien Testament qu'ils ont maintenant, on voit qu'ils ont ces prophéties-là. Puis, dans Ésaïe au chapitre 60, au verset 1, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Donc, on voit que le Seigneur va les réutiliser encore. Il dit, porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront sur toi. Voyez-vous, c'est certain qu'il va y avoir le temple qui va être construit, toutes ces choses-là. Donc, il y a les richesses des nations, comme quand ils ont sorti de l'Égypte, ils ont sorti avec les richesses de l'Égypte. Mais ils vont revenir aussi avec les richesses. Il dit, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians et d'éphas. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. On parle des sacrifices, là. Il dit, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Puis là, si on continue tout le chapitre d'Ésaïe 60, là, ça nous parle de ce rassemblement-là d'Israël qui reviennent là, comme des colombes reviennent vers leur colombier. Donc, le Seigneur va les rassembler complètement. Tout le peuple d'Israël va être rassemblé. Quand il va être rassemblé, la détresse, elle va venir sur eux en vue de leur réconciliation. Donc, la détresse va venir sur eux en vue de leur réconciliation. On va aller dans Habacuc. Habacuc, qui est un des petits prophètes, ceux qui sont durs à trouver dans la parole de Dieu. Hein. C'est dur de trouver ces livres-là. Donc, Habacuc, oui, il est, attends un petit peu, il est avant Sophonie, puis après Nahum, c'est Habacuc qui, lui, est au chapitre 3 qu'on va aller. Au chapitre 3 d'Habacuc, au verset 16 à 18. Donc, Habacuc, avant Sophonie, après Nahum, puis c'est après Michée, Nahum, Habacuc, au chapitre 3, au verset 16 à 18, il dit, j'ai entendu, au verset 16, et mes entrailles sont émues à cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux se chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront plus de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur les lieux élevés. Au chef des chants avec instrument à cordes. Donc, il parle ici d'une détresse qui vient. Il parle ici d'Israël de trois façons. Il parle le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien et le fruit de l'olivier manquera. Dans la parole de Dieu, Israël est comparé à ces trois choses-là, un figuier, une vigne, un olivier. Le figuier représente, lui, Israël au point de vue religieux. C'est la vie religieuse d'Israël qui est représentée par le figuier. Puis on se souvient dans Matthieu 21, 19, quand le Seigneur est venu, puis il y avait un figuier, puis qu'il y avait des feuilles, mais il n'y avait pas de fruits. Puis le Seigneur, il a maudit le figuier qui a séché. Puis on sait qu'au temps du Seigneur Jésus, la vie religieuse en Israël était forte. Il y avait beaucoup par rapport à la vie religieuse. C'est pour ça qu'il y avait des feuilles au figuier, mais il n'y avait pas de fruits. Le Seigneur n'a pas vu de fruits dans son peuple. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, le Seigneur, quand il a maudit le figuier, que le figuier a séché, il a dit qu'il n'y a pas de fruits en toi. Mais ça, c'était Israël dans son aspect religieux. Beaucoup, la religion était là, le temple était là, les sacrifices étaient là, les sacrificateurs étaient là, mais il n'y avait pas de fruits. C'était tous des rituels qu'ils faisaient. Il n'y avait rien de spirituel. La vie spirituelle d'Israël n'était pas présente. S'il avait été réveillé au point de vue spirituel, eh bien, il aurait reconnu le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est venu avec tous les signes et tout qu'ils avaient besoin pour reconnaître en lui le Dieu, leur Dieu de l'Ancien Testament qui venait pour les guérir. Et quand on parle d'Israël en tant que vigne, ben, vigne, c'est la nation. En tant que nation, on parle de leur vie nationale ici, là. On parle de la vigne d'Israël. Puis dans Ésaïe, au chapitre 5, au verset 1 à 2, il parle d'Israël comme un cep de vigne qu'il a planté sur un coteau fertile. Donc, ça, c'est la nation d'Israël. Puis la nation d'Israël, elle a été préservée, là. Il disait, la vigne ne produira rien. Donc, encore là, sont pas encore rassemblés en tant que nation, mais ils ont un État d'Israël depuis 1948, mais ils ne sont pas encore rassemblés. Puis ensuite de ça, il parle de l'olivier. Il dit, le fruit de l'olivier manquera. L'olivier, lui, parle de la vie spirituelle d'Israël. On sait que l'olivier, l'huile de l'olivier qui faisait briller le chandelier, c'est ça qui faisait brûler la flamme du chandelier pour éclairer. Ça nous parle aussi de l'esprit. L'huile nous parle de l'esprit. Puis c'est la vie spirituelle d'Israël à ce moment-là. Quand le Seigneur parle aussi dans Romains 11, 24, il parle d'Israël comme l'olivier franc. Ses branches ont été coupées. Israël était comme les branches de l'olivier franc qui ont été coupées. Puis l'olivier sauvage qui représente l'Église a été greffé. Mais le Seigneur dit, prends garde parce que si toi qui étais l'olivier sauvage, tu étais branché sur l'olivier franc, tu étais hanté ou greffé sur l'olivier franc, il dit, eux aussi peuvent être greffés de nouveau sur leur propre olivier, étant les branches naturelles de l'olivier. Donc, puis quand souvent, quand leur vie religieuse était florissante, leur vie spirituelle ne l'était pas. Puis quand leur vie religieuse était, quand ils étaient dans la détresse, en d'autres mots, qu'ils étaient empêchés de faire le sacrifice, leur vie spirituelle était meilleure. Parce que c'est la même chose pour nous autres, hein. On s'aperçoit que quand on est dans la détresse, on vient plus proche du Seigneur que quand tout va bien. Mais quand tout va bien, puis c'est ça, dans la religion, les gens se confient, ils pensent qu'ils sont corrects. Mais vraiment, c'est quand on est dans des temps de détresse que on voit le besoin qu'on a du Seigneur. Dans ce temps-là, dans Ésaïe 11, versets 11 à 13, on voit qu'est-ce que le Seigneur va faire ici avec eux autres. Dans Ésaïe 11, au verset 11 à 13, il est dit, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, et à Élam, et à Shinéar, et à Hamath, et dans les îles de la mer. Donc, on voit ici que c'est plus que la Syrie, là. Ça s'étend encore plus loin, ce rassemblement-là. Puis, il dit, il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Ça nous parle de la fête des trompettes, là. Il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Partout sur la terre, ils sont tous éparpillés sur la terre. Il va les ramener. Juste ça, c'est tout un miracle. C'est toute une puissance qui elle les chercher partout aux quatre coins qui sont dispersés des quatre coins de la terre. Il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm, il va rassembler Israël et Juda. Là. Et la jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront exterminés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. On sait que dans le temps du Seigneur, c'était Samarie et Jérusalem. Puis on sait que les Juifs, ils méprisaient la Samarie parce qu'ils disaient qu'ils étaient mêlés avec le roi d'Assyrie, avait mêlé la race avec d'autres nations. Puis ils étaient éloignés de Dieu, mais Juda aussi était éloigné, peut-être plus de leur cœur que de la réalité. Mais le rassemblement, là, c'est pourquoi? Ben, c'est en vue de jouir de la présence du Seigneur dans la joie. Vous savez, la présence du Seigneur, c'est la sécurité, c'est la joie, c'est la prospérité. Comme le Seigneur a dit, combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes. Mais pourquoi qu'une poule rassemble ses petits sous ses ailes? Ben, c'est pour les protéger, les garder, en prendre soin. Mais ils n'ont pas voulu. Mais il dit, dans le rassemblement, c'est en vue qu'ils puissent jouir de la présence du Seigneur puis être dans la joie. Dans le psaume 16 au verset 11, il dit, Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Donc la présence du Seigneur pour Israël, ça va être une grande joie là, quand ils vont être rassemblés au Seigneur. Dans le psaume 89, 16, il dit, Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple. Vous voyez, on a encore le thème de la trompette ici qui rassemble. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche. Donc, la trompette, c'était pour marcher. Il dit, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Si Israël est dans la détresse maintenant, puis on les voit, là, je ne sais pas si vous allez des fois sur l'Internet, puis on les voit chanter leur anthème, le Hatikvah. Ils viennent les larmes aux yeux, là. Ils sont dans une attente très grande à cause de toute leur souffrance, à cause de leur égarement. Puis ils attendent l'hymne national d'Israël, c'est rempli, c'est avec des notes mineures, c'est plaintif, mais c'est une espérance qui vraiment y attendent, là, parce qu'ils veulent quoi? Mais ils veulent la présence du Seigneur, puis des joies. Et il se réjouit sans cesse de ton nom, et il se glorifiera de ta justice. Puis quelle joie! Quelle joie après la nuit qui fut longue et pénible. Vous savez, quand on a passé une nuit pénible, là, puis quand le matin vient, là, c'est vraiment une grande joie, là, une délivrance. Ésaïe 9, verset 1 à 3, il nous dit, Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, la lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la maison, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Puis encore dans le psaume 53, verset 7, où il dit, Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Donc, c'est une grande promesse, c'est une grande attente. Ça fait longtemps qu'ils sont dans l'attente, même s'ils ne réalisent pas ils s'attendent que ça va venir. Mais la surprise pour eux, c'est quand leur Messie va venir, ils me verront celui qu'ils ont percé, puis pleureront sur lui. Là, c'est ça qui va les emmener à nos jours des expiations qu'on verra. On ne va pas commencer ce soir. Mais on regardera dans un prochain temps, la semaine prochaine, Seigneur voulant, on regardera le jour des expiations. Tout ça, le rassemblement ici, là, le miracle que le Seigneur fait d'aller les chercher des extrémités de la terre pour les ramener à Jérusalem, pas juste Juda, mais il y en a qui nous disent que les 10 tribus sont perdues, là, mais ils ne sont pas perdues. Le Seigneur les connaît, le Seigneur va les ramener. Il va, avec le son de la trompette, de toute façon, le Seigneur va utiliser une situation pour les rassembler, comme on a vu dans Ézéchiel, ces eaux-là, peuvent-ils revivre? Oui, ils vont revivre. Ils vont revenir ensemble, puis à ce moment-là, le Seigneur va les emmener au jour des expiations, à travers les souffrances, mais il va les emmener au jour des expiations pour les réconcilier avec lui, puis ensuite de ça, ben, comme on a dit, ces trois fêtes-là sont groupées ensemble parce que ça commence le rassemblement, la réconciliation par l'expiation. Ensuite de ça, le royaume qui va durer 7 jours, la fête des tabernacles. Le Seigneur va leur donner maintenant le royaume, puis ils vont marcher à la lumière. La présence du Seigneur va être avec eux. Le Seigneur Jésus va être leur roi, puis il va régner sur eux et ils vont être une lumière pour les nations. Que je m'arrête là pour le moment. Puis, si vous avez des questions, ceux qui veulent poser des questions ou faire des commentaires, je vous donne le temps. On a encore une dizaine de minutes pour le faire.
C'est drôle, le rassemblement d'Israël, ça me fait penser à la période de Noé, où Dieu a appelé toutes les espèces pour les rassembler vers l'arche. Ça prenait vraiment un miracle pour que ça soit possible. Puis le rassemblement d'Israël, comme tu l'as souligné, ça prend aussi un miracle pour convaincre chaque individu de sortir de leur pays, du pays où ils sont, pour aller en Israël.
Ouais.
C'est vraiment un miracle, c'est vraiment la puissance de Dieu, que ce rassemblement-là.
Ah oui, c'est sûr, c'est un grand miracle. Comme c'est vrai que le Seigneur, il rassemble, c'est comme un berger, il rassemble ses brebis. Le loup les disperse, mais le berger, il rassemble pour les nourrir, pour les protéger. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne illustration. Quand il a fait venir, Noé n'a pas obligé, pas été obligé d'aller les chercher, c'est Dieu qui les a amenés
C'est
pour
ça.
rentrer dans l'arche. Ouais.
Oui.
Ouais, c'est une bonne illustration.
Je reviens au verset d'Ézéchiel 37, 14, comme on vient de mentionner avec Donald, quand Israël va retourner, c'est la puissance de Dieu, comme tu as dit, Gérald, hein, qui fait ça. Ézéchiel 37, 14, je mettrai mon esprit avec un E majuscule. Moi, ça m'impressionne toujours quand je vois le E minuscule puis le E majuscule.
Ouais.
Alors, je mettrai mon esprit. Alors, ça, c'est puissant, hein? Ça nous rappelle le jour où nous sommes nés de nouveau et que nous avons été baptisés du Saint-Esprit, dont nous avons eu une puissance. Donc, ça va être le même esprit qui va agir en eux pour les diriger vers la ville de Jérusalem.
Ouais,
Vraiment
justement.
beau.
Ouais. Ça, par le baptême du Saint-Esprit aussi, le Seigneur rassemble. On voit toujours le rassemblement, là, c'est important. Le peuple de Dieu, c'est un peuple rassemblé autour de lui. Ils sont dans l'égarement, présentement, ils sont dispersés parce qu'il y a un temps où Dieu les appelle amis, mon peuple, puis il y a un temps où ils appellent lo-ami. C'est le temps qu'il les a laissés dans la dispersion à cause de leur péché. Puis après ça, ils vont revenir à être appelés encore ami, mon peuple. Lo-ami, c'est pas mon peuple. Ami, c'est mon peuple.
Monsieur Salera, lorsqu'on lit Zacharie 14, à partir du verset 16, tous ceux des nations qui tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. Je pense que ça, c'est la. Il parle de cette fête-là. Je ne sais pas s'il parle de d'autres fêtes à l'extérieur, ailleurs, là, mais on dirait que dans. Je pense que c'est dans le millénium, là. Ceux des nations qui resteront, là. Puis là, ils vont se rassembler, là, parce que c'est la fête des tabernacles, c'est la fête du rassemblement, il faut dire.
Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'ils vont avoir leur royaume à Jérusalem.
C'est
Puis ils
ça.
vont venir. Parce que le rassemblement d'Israël va. Seigneur aussi va rassembler des nations à Israël. On sait que dans le jugement des nations vivantes, il vient pour Israël, il les fait rentrer dans le royaume, mais il y a aussi des nations, des brebis, là, ceux qui rentrent avec Israël. Fait qu'ils vont. Dieu, il va les utiliser encore comme ils étaient supposés être utilisés pour être une lumière pour les nations. Fait que le choix d'Israël, ce n'est pas un choix exclusif, c'est un choix inclusif. C'est qu'à travers Israël, Dieu voulait se manifester aux nations. Puis c'est ça, ceux qui vont rester de ces nations-là, ceux qui vont aller contre Jérusalem, bien, ils vont être détruits dans le jugement. Mais ceux qui vont savoir tourner vers le Seigneur, et eux, ils vont venir pour adorer le roi, l'Éternel des armées, là. Ils vont venir pour célébrer la fête des tabernacles. C'est parce que la fête des tabernacles, elle représente le millénium.
14-16.
Ouais. Ouais.
Tandis que les familles qui ne monteront pas, eux autres, ils vont trouver ça un petit peu plus difficile.
Ouais. Parce qu'on sait que dans le millénium, il va y avoir encore des gens qui vont être rebelles, mais pas ouvertement. Parce que,
Oh
mais
oui.
c'est pour ça que le Seigneur dit, à la fin du millénium, Satan vient, puis il séduit encore des nations. Puis c'est comme s'il y a des gens qui ne sont pas montrés rebelles ouvertement parce que le péché est jugé sur le champ, mais dans leur cœur, ils étaient rebelles. Puis le Satan va les rassembler pour se révolter, puis là, un feu du ciel qui vient les détruire. Après ça va tomber dans l'état éternel où il n'y aura plus de péché. Là. Mais dans le millénium, c'est encore une autre étape où Dieu donne à l'homme, Satan est lié pendant les 1000 ans. Donc l'homme n'aura plus d'excuses, là, ceux qui se sont, ils vont se rebeller à la fin, là, ceux qui n'auront pas suivi le Seigneur pour être sauvés dans le millénium, ils ne pourront pas dire c'est Satan qui nous a tentés, c'est eux-mêmes dans leur cœur, c'est la rébellion même de l'homme. Ils vont être jugés à la fin.
J'ai une grande question existentielle.
OK.
Pensez-vous, dans le millénium, il va y avoir des voitures électriques? Surtout que là, ils sont partis à construire des usines autour
Ouais.
de
Ouais. Je pense que c'est pas l'homme qui trouve la solution. C'est le Seigneur
là.
qui va avoir sa solution. La solution de l'homme, il ne résout
Non.
pas grand-chose.
Là, on parle pas de voiture électrique dans
Non, 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 non. Mais si on regarde le problème actuel qu'on voit sur la Terre, c'est rien que depuis les derniers 100 ans, vraiment avant ça, il n'y avait pas de problème comme ça de pollution, mais la vie a changé beaucoup depuis 100 ans.
le
Ça porte.
Seigneur, il faut dire de revenir sur un cheval blanc,
Ouais.
puis nous aussi,
Ouais.
sur des
Ouais.
chevaux.
Ouais. Parce qu'on va retourner à ça, ouais. Ouais.
Alors, j'espère que ça va être comme ça.
Ben
Oui.
oui.
Comme ça, on va s'acheter des chevaux pour commencer à se pratiquer.
Ah
Ben
oui,
oui.
il
Pas de
faut.
longueur d'avance, si on veut
Oui.
ça. Parce qu'un petit coup à Saint-Anne, il dit, genre, et dis-moi, je vais prendre une petite ride de 100 000 ans sur mon cheval blanc.
Oui.
Il y aurait une question virale.
Ouais.
On parle de rassemblement du peuple d'Israël. Quand la tribulation va commencer, est-ce que tous les Juifs vont être rentrés dans le pays d'Israël?
Ben, c'est sûr qu'on. Parce que c'est sûr ils vont venir pour les détruire, puis probablement. Le Seigneur, il va les rassembler, lui, pour les régénérer, mais dans la tribulation, ils vont avoir des grandes souffrances. Ils vont être persécutés. Puis c'est sûr que pour être persécutés à Jérusalem, ça va se faire dans ce moment-là. Puis la tribulation va les amener à se tourner vers le Messie, là, pour être. Ça qu'ils vont être à ce moment, ils vont être à un moment donné dans le pays, là, ouais.
Le deux tiers de première. Le tiers présent. Deux tiers.
Tantôt aussi, tu avais dit, je n'avais jamais pensé à ça, non? Qu'Israël va être rassemblé dans l'incrédulité.
Ouais.
Jérusalem, je ne m'étais jamais arrêté à ça, mais c'est vrai, c'est ça qui va se passer pareil.
Ouais. Il va y avoir les deux tiers qui vont périr. Hein.
Ouais.
Puis il va y avoir un tiers, puis il va les amener au désert. Puis là, ils vont être passés au travers du feu. Et aussi, on voit qu'Ézéchiel parle que le Seigneur avait dit de couper sa chevelure, puis d'en prendre un tiers, puis les frapper avec le rasoir. Puis il y a un tiers qui est frappé par l'épée, un tiers qui est dispersé, puis il y a un tiers qui le met dans le pan de sa robe, puis il le serre. Ça, c'est le tiers, c'est le reste selon l'élection de la grâce de Dieu, là. C'est que c'est cet Israël-là qui va être tout sauvé. Mais il va y avoir les deux tiers qui vont périr à cause des persécutions. Les deux tiers qui vont se tourner vers la bête.
Lorsque Nelson disait que rassembler dans l'incrédulité, si on prend par exemple Herzl, là, dans la fin des années 1800, c'est lui qui a, il a pas, on dit qu'il a mis vraiment vivante l'histoire du sionisme, du retour des Juifs en
Ouais,
Palestine.
ouais,
Okay?
ouais,
Et lui,
ouais,
Herzl, là, c'était
ouais.
même pas un voyant, là.
Non, non,
Okay,
non.
c'est un athée, Herzl. Puis
Ouais.
Dieu se sert d'athées, de
Ouais.
non-croyants,
Ouais.
pour arriver à ses fins.
C'est ça, ouais. Ouais,
C'est quand même assez extraordinaire.
parce que le mouvement zioniste, c'est pas un mouvement messianique, là.
Non, absolument
Ils attendent le Messie, mais ils ne reconnaissent pas, là.
pas. C'est deux choses différentes. Le sionisme, c'est pas un mouvement de foi, là.
Non, non. Puis le peuple, même le peuple d'Israël, ils disent que Israël, Tel Aviv, c'est la capitale de l'homosexualité. Puis il y a beaucoup de péchés en Israël. C'est un peuple, c'est le peuple de Dieu, mais c'est un peuple aux courants, c'est un peuple qui n'est pas encore converti. Puis c'est comme nous autres, quand on était inconvertis, là, c'était pas beau, les choses que vous rougissez maintenant, tu sais.
Ça va aider à l'Antéchrist vraiment de faire sa place, ça. Parce que les
Ouais,
gens vont
ouais.
l'adorer. Hein.
Ouais.
Ça va aider l'Antéchrist à faire sa place.
C'est ça, ouais. C'est ça, c'est une des choses quand on s'arrête à le mettre dans leur contexte, qu'est-ce qui va arriver. C'est pour ça que le peuple d'Israël, faut réaliser que c'est un peuple pécheur, là. C'est encore, ils ne sont pas encore réconciliés avec leur Messie, mais il ne faut pas aller contre Israël, mais il ne faut pas non plus les voir comme des frères spirituellement, parce qu'ils ne sont pas. Moi, quand on est allé en Israël, il y a des gens qui s'associaient avec eux autres pour prier. On peut pas avoir de communion avec eux, ils ne sont pas régénérés. En tant que nation, là, mais il y a des individus qui sont sauvés. Eux, on peut avoir de la communion avec eux autres. Mais là, on ne peut pas s'associer avec le peuple, la nation d'Israël, parce qu'ils ne sont pas régénérés encore. On les aime parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Puis Dieu les aime, il les garde, mais il va y avoir les deux tiers qui vont périr dans leur péché. Puis ce tiers-là, va falloir qu'ils reconnaissent leur péché, qu'ils passent par la régénération, le jour des expiations, va falloir que ça vienne sur eux pour qu'ils soient réconciliés. Puis quand ils vont être brisés, comme les frères de Joseph, quand ils ont été brisés devant Joseph à cause de leurs besoins, mais là, ils se sont prosternés de cœur devant lui. Quand ils ne voulaient pas auparavant, mais là, ils se sont prosternés de cœur devant lui, puis ils l'ont reconnu comme dans sa position. C'est ça qu'Israël va falloir qu'un jour ils reconnaissent aussi. Mais jusqu'à ce temps-là, ils sont dans l'aveuglement.
Ils vont être à genoux quand ils vont le reconnaître.
Exactement. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Là. Ils vont reconnaître leur faute. Puis, comme disons, quand on s'est repenti de nos péchés, puis qu'on a reconnu qu'on était on s'est même bon, on dit les Romains l'ont crucifié, mais c'est pas nos péchés qui ont été crucifiés.
Oui.
On reconnaît notre place, là, puis c'est pour ça qu'on est venu dans la repentance. Puis à ce moment-là, on a vu l'amour du Seigneur pour nous autres. C'est ça qui nous a. On a été transformés, là. Celui qu'on persécutait, maintenant on l'aime. On est rendu à 9 h 02, ce qu'on va peut-être avoir un mot de prière pour terminer la leçon pour ceux qui doivent partir. Puis s'il y en a qui veulent continuer, on peut continuer à jaser aussi, mais ceux qui doivent partir pourront le faire. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois parce que, Seigneur, tu fais des grandes choses, des choses qui pour nous semblent impossibles et qui sont impossibles. Mais toi, tu es le Dieu de l'impossible. On te remercie, notre Dieu, parce que tu es tellement un grand Dieu. Toutes ces choses-là, Seigneur, tu les connais. Et c'est toi qui fais en sorte qu'ils arrivent. Puis quand ils arrivent, Seigneur, on peut voir ta grandeur. On peut voir ton omniscience, ton omnipotence, puis ton omniprésence aussi. Ta grandeur, puis aussi, Seigneur, ta grâce infinie, ton amour. Et c'est vraiment merveilleux, Seigneur. On veut te louer, t'adorer. Donne-nous, Seigneur, de vraiment, nous qui se sont reconnus pécheurs devant toi, qu'on puisse t'adorer, t'aimer, Seigneur, de tout notre cœur. On te remercie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
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 Amen.